Merci pour votre intervention et vos recherches. La conclusion que m'amène à penser à une formation à laquelle j'ai assisté ici, qui était sur le travail collaboratif au mois d'octobre, j'espère qu'il y aura une publication parce que c'était vraiment très très intéressant et ça répond beaucoup à certaines interrogations, en tous les cas, que vous posez dans votre conclusion. Donc je ne sais pas s'il y aura une publication, mais en tous les cas, si c'est le cas, ça, je vous engage à aller le voir. Autre chose, vous parliez du temps. En effet, le temps de rencontre moi je parlerai du collège, hein, pose de vrais problèmes. Après 16h30, on n'a plus personne. Entre midi et 2, c'est le temps de la pause méridienne. Ça pose un vrai problème. Donc pour ça, je vois arriver la réforme de la refondation de l'éducation prioritaire avec un grand sourire, parce que j'ai l'impression qu'on pourra enfin dégager du temps de concertation et de travail collaboratif et trouver des réponses à nos questions. En tous les cas, ce temps de réunion, il est indispensable. Pour moi, il ne se fait pas autour d'une table à manger un gâteau. Il est important de pouvoir mobiliser tous les acteurs dans des temps précis, mais pas lorsqu'ils doivent aller chercher leurs enfants, voilà. Tout en respectant bien sûr la vie de chacun, nous avons besoin de ce temps, il va nous être dégagé. Donc j'en suis très contente. Au niveau de l'autonomie et la valorisation des expertises, poids de la direction, poids des directives, oui. Mais enfin, quand même, nous avons dans les établissements une marge d'autonomie, hein. Nous avons quand même le droit d'innover. Il y a un article pour cela. Et si nous savons faire, si nous faisons des formations d'initiative, nous faisons des fils, formations d'initiative locale, nous pouvons quand même aussi former nos enseignants et demander et faire expertiser nos initiatives. Donc, je pense que quand même, on a quand même une marge de manœuvre. Moi, je me sens pas complètement serrée, contrainte. Dans ce que je mets en place. Je voulais juste dire, analyse de la pratique, c'est une demande que je fais depuis, je crois que ça fait 30 ans que je suis dans l'éducation nationale, j'ai enseigné pendant 25 ans, j'ai fait l'analyse de la pratique parce que je le voulais bien, on me l'a jamais proposé, j'ai rencontré des psychiatres, des psychologues, j'ai analysé ma pratique, les enseignants sont très demandeurs, dans notre établissement nous avons mis en place des cellules, mais bidouiller, comme vous le dites, bricolage. Voilà, c'est l'analyse de la pratique, elle est faite pour les assistantes sociales de milieu scolaire, et ça, je trouve ça formidable. Quid de l'analyse de la pratique des chefs d'établissement? Quid de l'analyse de la pratique des chefs d'établissement? Voilà. Autre chose, juste dernière chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a quelque chose qui me paraissait importante. L'autonomie, le temps. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est la réforme du collège. Quand même, nous avons Madame la ministre nous a présenté la réforme du collège il y a 15 jours. Madame la rectrice l'a présentée sur l'Académie de Lyon la semaine dernière. Nous allons peut-être trouver des réponses dans cette nouvelle réforme du collège rentrée 2016 sur plus de face à face véritablement, une co-animation, un travail d'équipe autour de l'élève, un vrai maillage. Donc moi, j'y crois vraiment. Je crois qu'il faut y croire.
On va y croire.
Merci pour ces apports drôlement optimistes. Mais effectivement, du coup, pour rebondir sur le point du temps, c'est vrai que du coup, la construction de ce travail d'études, ça s'est fait un peu simultanément finalement avec ce qui était au travail aussi. On s'est aperçu qu'effectivement, ça rebondissait sur ce point-là notamment.
Juste par rapport à l'analyse de pratique, alors nous, ce qu'on propose, c'est pas une analyse de la pratique en termes psychologiques. Hein. Il nous semble aussi qu'il y a quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle nous l'analyse du travail. Et avec des cas d'analyse on pourra vous en reparler cet après-midi, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose le parcours de formation, c'est-à-dire comment on part de l'analyse du travail de chacun et comment on en fait un objet d'échange collectif. Enfin voilà, on ira plus précisément là-dessus cet après-midi.
Alors pour garder un petit peu le fil conducteur de la journée d'hier, nos échanges, moi j'ai fait un rêve et puis il s'est réalisé, sauf que les choses ont un peu bougé depuis parce qu'on n'a plus de subvention pour continuer de le vivre, mais le programme de réussite éducative nous avait permis de proposer une analyse de la pratique transversale et interinstitutionnelle. On a commencé à parler de nos pratiques ensemble et après on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de le réfléchir, de l'analyser, d'aller plus loin et puis de le décentrer, de faire en sorte que cette réflexion ne soit pas organisée, pilotée, distribué par une institution plus qu'une autre, mais bien d'utiliser la neutralité d'un intervenant en analyse de la pratique. Et on a invité l'ensemble de nos partenaires à s'associer à ce temps de réflexion. Donc on mettait à disposition le programme de réussite éducative au travers de ces financements, mettait à disposition un professionnel compétent pour pouvoir procéder, animer ces temps d'échange et de réflexion. Et après, chaque partenaire engagé sur le territoire dans la réussite éducative pouvait y être associé. Forcément, c'est un coût oui, en termes de temps, un coût financier dont les institutions étaient dégagées, mais ça nécessitait quand même d'être valorisé. Et aujourd'hui, ben, sans ces financements-là, le temps, on avait réussi à le trouver parce qu'il avait vraiment du sens pour chacun. Mais puisque ben, nous n'avons plus ces moyens, chaque collectivité, chaque institution n'a pas pu mettre à profit les bénéfices.
Et vous n'avez pas essayé de demander à chaque institution qui alimentait cet espace de mettre dans le pot commun et de mutualiser des moyens de façon à ce que cet espace puisse continuer à vivre ?
Alors, je suis idéaliste, hein, mais je crois que j'ai trouvé mes limites.
Il me semble que quand même l'intérêt de l'étude qui va nous être présentée, c'est nous faire mesurer chacun à notre place. On a tous une place différente. Comme quoi, c'est jamais donné que le travail qu'on produit à un niveau intermédiaire, puisqu'on est quand même plus tous à des niveaux intermédiaires, soit réellement ancré, appuyé sur les besoins des professionnels. Et c'est toujours une gageure d'aller à la rencontre de ces besoins, de leur permettre de s'exprimer et de réinterroger aussi donc nos modes de faire au niveau intermédiaire.
Oui, peut-être juste une remarque. Ce qui m'a un petit peu surpris dans votre témoignage, c'est le fait que vous n'ayez pas pu rencontrer de professionnels au niveau du PRE. Qui est justement un dispositif dont l'essence même est justement le travail partenarial. Donc voilà, moi je vois dans la commune où je suis, ça fonctionne effectivement très bien. Donc voilà, c'est une petite interrogation. Et également aussi avec le centre social où dans la démarche aussi des centres sociaux, de l'éducation populaire, il y a quand même vraiment tout ce travail partenarial qui est l'essence même des missions. Donc une petite interrogation effectivement par rapport à
c'est un réel paradoxe. Hein. Ouais. C'est un réel paradoxe et effectivement c'est pas faute d'avoir usé de multiples stratégies voire ruses pour tenter. Ça a été absolument impossible. Alors ce qu'on a bien expliqué justement, on était quand même dans un contexte extrêmement particulier avec des enjeux locaux, notamment sur ce territoire qui était extrêmement fort. Voilà, des municipalités qui étaient en pleine recomposition, voire décomposition. Et je pense qu'après, ce qu'on a mesuré également, c'est que quand les gens ne sont pas à l'aise dans leurs propres institutions, quand il y a des enjeux internes qui sont forts, quand il y a des tensions, c'est des positions. On constate des positions de repli. Et effectivement, mais le partenariat, ça participe aussi de ça. Pour pouvoir travailler avec d'autres, il faut d'abord être à l'aise dans sa propre pratique, il faut être légitimé dans sa propre institution, dans sa propre boutique. Sinon, c'est juste pas possible. Et je pense qu'on est arrivé à ce moment-là.
Et en même temps.
Alors qu'effectivement, au moment où on a eu la commande et où la commune s'est engagée à nous accueillir sur son territoire, le coordinateur PRE était un des leviers, comme quoi les choses bougent aussi très vite, quoi.
Et je voulais compléter ce que dit Odile, disant que on ne peut pas à ce stade faire d'hypothèse sur en quoi ces difficultés que nous avons rencontrées, pour moi, ça ne présage en rien du travail qui pouvait se faire par ailleurs par ce PRE-là, avec une commune qui était en plus une commune assez novatrice au niveau de son histoire aussi, au niveau d'un projet éducatif local important. Enfin voilà, j'en dirai pas trop plus.
Ce qui me semble intéressant aussi, c'est on a tendance à penser que l'institution qui est la plus rigide, où les choses descendent comme ça sur les professionnels de terrain, c'est l'éducation nationale. Je pense qu'il y a aussi à se poser la question du fonctionnement interne des services des collectivités, où parfois les choses sont encore plus rigide et cloisonné. Moi, j'en ai fait personnellement l'expérience au début de mon métier de coordonnateur. Et c'est aussi comment on réfléchit à la collaboration verticale au sein de chaque service, au sein de chaque institution. Est-ce qu'on peut créer des collectifs où le professionnel de terrain puisse discuter avec le responsable de service, voire l'élu, sur un pied peut-être à un certain moment d'égalité. C'est une vraie question pour faciliter le travail.